Que dit Dieu dans Romains chapitre 1 ? Romains chapitre 1, versets 1 à 32, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, « Le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient à comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Que dit le passage de Romains chapitre 1, versets 1 à 17 ? Romains chapitre 1, versets 1 à 17 sont des paroles qui résument et montrent dans l'introduction l'identité et la puissance de l'Évangile, ainsi que la manière dont le salut est donné. Ces versets sont comme une sorte de manifeste de l'Évangile qui ouvre tout le livre des Romains. Tout d'abord, dans les versets 1 à 7, Paul se présente comme serviteur de Jésus-Christ et apôtre mis à part pour l'Évangile. Cet Évangile n'est pas une nouvelle doctrine inventée par des hommes, mais l'Évangile de Dieu qui avait déjà été promis dans les Écritures par les prophètes. Le centre de l'Évangile est Jésus-Christ. Selon la chair, il est né de la lignée de David et selon l'esprit de sainteté, il est le Fils de Dieu, possédant la puissance de la résurrection d'entre les morts. Par ce Jésus-Christ, la fonction apostolique a été donnée, et cet évangile est annoncé à tous ceux qui sont appelés, sans distinction entre juifs et païens. Entre les versets 8 et 15, Paul rend grâce à Dieu parce que la foi des saints de Rome est proclamée dans le monde entier. Paul désire ardemment leur rendre visite en personne afin de partager un don spirituel et d'être mutuellement encouragés par la foi les uns des autres. Paul confesse qu'il est débiteur envers tous, grecs et barbares, sages et ignorants, et déclare qu'il est prêt à annoncer l'évangile aussi à ceux qui sont à Rome. Dans le verset suivant, le verset 16, Paul proclame avec assurance « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec ». L'évangile n'est pas un simple enseignement ni une leçon morale. C'est la puissance réelle de Dieu qui sauve ceux qui croient, et ce salut est donné sans discrimination, tant aux juifs qu'aux païens. Le dernier verset, le verset 17, est un verset central qui contient le thème fondamental de tout le livre des Romains. Paul déclare clairement « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi ». Il souligne que le salut n'est pas obtenu par les œuvres humaines ni par l'accomplissement de la loi, mais qu'il est accompli par la justice de Dieu révélée dans l'Évangile, et que cette justice est reçue uniquement par la foi. En fin de compte, Romains chapitre 1, versets 1 à 17, montre que l'Évangile provient de Dieu, qu'il est centré sur Jésus-Christ et qu'il est la puissance de Dieu qui sauve tous ceux qui croient. Toute la doctrine et l'argumentation du livre des Romains reposent fermement sur cette déclaration. Le salut ne vient pas des œuvres humaines, mais il est donné par la foi et accompli par la justice de Dieu. Par qui l'évangile de Dieu a-t-il été accompli? L'évangile de Dieu a été parfaitement accompli par Jésus-Christ. La Bible témoigne clairement que l'évangile n'est pas une simple idée ni une doctrine, mais un fait de salut accompli par l'œuvre historique réelle d'une seule personne. Surtout, l'évangile n'a pas été accompli en restant simplement une promesse, mais en étant accompli. Dieu avait promis l'évangile d'avance par les prophètes de l'Ancien Testament, et cette promesse a été accomplie en étant réellement réalisée en Jésus-Christ. Romains chapitre 1, versets 2 à 4 dit que cet évangile est celui que Dieu avait promis auparavant dans les Écritures concernant notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon la chair est né de la descendance de David, et qui, par la résurrection, a été déclaré fils de Dieu avec puissance. En d'autres termes, l'évangile n'est pas une illumination humaine, mais un événement du plan de Dieu accompli dans le temps. De plus, tout le ministère de Jésus-Christ constitue l'accomplissement même de l'évangile. L'évangile de Dieu n'est pas limité à une seule partie du ministère de Jésus, mais a été accompli à travers toute sa vie et son œuvre. Depuis l'incarnation, où il est venu dans un corps humain pour sauver les pécheurs, jusqu'au ministère public qui a révélé la réalité du royaume de Dieu, à la mort, qui a porté le transfert de tous les péchés de ce monde et a accompli le juste jugement de Dieu concernant le péché, et jusqu'à la résurrection qui a confirmé la vérité de ce salut, tous les processus ont été accomplis sans exception. Ainsi, l'évangile est devenu un salut parfait qui ne nécessite aucun ajout supplémentaire. Cet accomplissement de l'évangile n'a pas été possible par le mérite humain, mais uniquement par l'œuvre de Dieu. L'évangile de Dieu n'a pas été accompli par la coopération humaine, mais a été entièrement réalisé par Dieu à travers Jésus-Christ. Par conséquent, l'évangile ne dépend ni de la décision, ni de l'effort humain. Il est une réalité à recevoir par la foi, et non un processus que nous créons. Les apôtres n'ont pas prêché l'évangile comme un salut en cours, mais ils ont témoigné d'un salut déjà accompli en Christ. En fin de compte, il est clair pourquoi l'évangile n'a été accompli que par Jésus-Christ. C'est parce que le problème du péché ne peut pas être résolu par les êtres humains eux-mêmes, que le jugement du péché ne peut être porté que par Dieu, et que le salut lui-même doit être accompli par Dieu pour être un véritable salut. C'est pourquoi Dieu ne s'est pas contenté d'envoyer des anges ou des prophètes, mais il a accompli l'évangile en envoyant directement son propre Fils. En résumé, l'évangile de Dieu n'a pas été créé par l'Église, ni achevé comme un système théologique, ni établi par des actes de foi humains. C'est l'histoire du salut que Dieu lui-même a accompli et achevé par Jésus-Christ. Ainsi, l'évangile n'est pas quelque chose auquel les croyants doivent ajouter, mais un don complet de Dieu à recevoir par la foi. Concernant la lignée selon la chair de Jésus-Christ. La lignée selon la chair de Jésus-Christ est la preuve décisive qui montre comment la promesse de salut de la Bible a été accomplie dans l'histoire réelle. L'évangile ne reste pas simplement une déclaration conceptuelle ou spirituelle. L'évangile a été accompli à travers une lignée claire et une naissance dans l'histoire. La Bible ne présente pas Jésus comme une illusion ni comme un simple symbole. Il a revêtu un véritable corps humain et est né au sein d'une famille et d'une lignée spécifique. Romains chapitre 1, verset 3 témoigne clairement « Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair ?» Cela signifie que Jésus est une personne historique qui est venue comme un véritable être humain et qu'il a accompli physiquement les prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Depuis les temps de l'Ancien Testament, Dieu a promis à plusieurs reprises que le Messie viendrait de la maison de David, et cette promesse s'est accomplie en Jésus-Christ exactement comme elle avait été annoncée. En venant comme descendant du roi David, Jésus a été qualifié comme le Messie légitime qui hérite de la lignée royale. Matthieu et Luc témoignent de la lignée davidique de Jésus sous des perspectives différentes, confirmant ainsi sa légitimité. Bien que Jésus ait été conçu par le Saint-Esprit, son corps est clairement né de Marie, et ainsi il possédait une véritable nature humaine. Par cela, Jésus est devenu un véritable homme capable de porter les péchés de l'humanité à leur place, et en même temps, il est devenu le véritable sauveur envoyé par Dieu. De plus, l'accomplissement de la lignée légale a également été réalisé à travers la relation avec Joseph. Joseph n'était pas le père biologique de Jésus, mais en tant que descendant de la maison de David, il a rempli le rôle de père légal. Par conséquent, Jésus est devenu descendant de David par le sang à travers Marie, et légalement, il appartenait à la maison royale de David par Joseph. De cette manière, Jésus a accompli les qualifications du Messie, tant sur le plan physique que légal. La raison pour laquelle la lignée, selon la chair de Jésus-Christ, est si importante est que, puisque le péché a commencé avec l'homme, le salut devait également être accompli par un sauveur ayant revêtu un corps humain. La promesse de Dieu ne peut pas rester un slogan abstrait. Elle devait être accomplie dans l'histoire et dans la lignée réelle. En conclusion, Jésus n'est pas un être apparu soudainement du ciel, mais le Messie qui est né dans la généalogie d'Abraham et de David. La lignée, selon la chair de Jésus-Christ, et l'accomplissement de la promesse donnée à Abraham, l'achèvement de l'alliance concernant la dynastie de David est une preuve puissante que Dieu lui-même est entré dans l'histoire humaine. Jésus est venu comme un véritable homme avec une lignée réelle afin de porter les péchés de l'humanité et d'accomplir le salut. Jésus-Christ est-il le Messie qui est venu sur cette terre selon la parole des prophéties de l'Ancien Testament ? Jésus-Christ est le Messie qui est venu sur cette terre exactement comme l'avaient annoncé les prophéties de l'Ancien Testament. La Bible a prophétisé de manière précise non seulement la lignée, la naissance, le ministère et les souffrances du Messie, mais aussi sa mort et sa gloire, et elle témoigne clairement que toutes ces prophéties ont été réellement accomplies dans l'histoire. Avant tout, le Messie n'est pas venu comme une attente vague, ni comme une simple promesse, mais comme un accomplissement. Dieu a parlé d'avance par les prophètes de l'Ancien Testament du moment, du lieu et de la manière dont le Messie viendrait. Et ces prophéties ont été réalisées avec précision en Jésus-Christ. Jésus lui-même a également défini son ministère comme l'accomplissement de la prophétie par ses paroles, afin que l'Écriture fût accomplie. La lignée et la naissance du Messie ont également été accomplies selon la prophétie. Il avait été annoncé que le Messie viendrait comme descendant de David, et Jésus est né de la lignée de David conformément à cette parole. De plus, la prophétie du prophète Michée selon laquelle le Messie naîtrait à Bethléem a également été accomplie avec précision par la naissance de Jésus. Ce n'est en aucun cas une coïncidence, mais le résultat des promesses de Dieu qui s'entrelacent avec précision dans l'histoire. La nature de son ministère n'était pas centrée sur la puissance du monde, mais sur le salut des âmes. L'Ancien Testament a prophétisé le Messie non pas comme un conquérant politique, mais comme un serviteur qui sauve les pécheurs. Le ministère de Jésus, qui a annoncé l'Évangile aux pauvres, guérit ceux qui ont le cœur brisé et proclamé la liberté aux captifs, correspond exactement à l'image du Messie et prophétisé par Ésaïe, et la vie publique de Jésus a été l'incarnation réelle de cette prophétie. En particulier, ses souffrances et sa mort peuvent être considérées comme l'accomplissement le plus décisif de la prophétie. Il avait été prophétisé que le Messie souffrirait, serait rejeté par les hommes et serait mis à mort à la place des pécheurs. L'image du serviteur souffrant décrite dans Ésaïe 53 s'est accomplie sans la moindre erreur dans l'événement de la croix de Jésus. Il a porté nos péchés à notre place, a reçu le châtiment que nous devions recevoir à notre place, et par cette mort, il a rendu beaucoup de personnes justes. De plus, comme l'Ancien Testament avait aussi prophétisé que le Messie ne resterait pas dans la mort, la résurrection de Jésus est devenue l'événement par lequel Dieu lui-même a confirmé qu'il est le véritable Messie. La résurrection et l'accomplissement de la prophétie est la preuve de la signification portée par le baptême et la croix, et elle révèle au monde entier que Jésus est véritablement celui qui a été envoyé par Dieu. En conclusion, Jésus-Christ est précisément le Messie prophétisé par l'Ancien Testament, qui est venu, comme il est écrit, sans désobéir à la parole de Dieu et qui a parfaitement accompli le plan de Dieu, et non les attentes humaines. En Jésus, les prophéties de l'Ancien Testament ne sont plus des ombres, mais une réalité, et en Jésus-Christ, l'Évangile est devenu un accomplissement complet au-delà d'une simple promesse. Quel était le but de l'apôtre Paul en cherchant à témoigner de la justice de Dieu en prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit à Rome? La raison pour laquelle l'apôtre Paul voulait aller à Rome pour prêcher l'évangile dans lequel la justice de Dieu est révélée est claire. Ce n'était pas simplement parce que Rome était le centre du monde à cette époque, mais plutôt parce que c'était un lieu où l'évangile pouvait être le plus facilement déformé. Paul nourrissait un ardent désir d'établir la véritable essence de l'Évangile au sein de la grande ville de Rome. La valeur fondamentale que Paul cherchait à transmettre n'était ni le zèle humain, ni la moralité, ni les œuvres de la loi, mais la justice de Dieu révélée dans l'Évangile. Dans Romains chapitre 1, verset 17, Paul proclame « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi ». À cette époque, les Juifs cherchaient à obtenir la justice en observant la loi, et les païens cherchaient à atteindre la justice par la philosophie, l'éthique et la raison humaine. Parce que Paul savait qu'aucune de ces deux voies ne pouvait conduire à la justice de Dieu, il voulait prêcher à Rome la vérité selon laquelle seule la justice donnée gratuitement par Dieu peut sauver une personne. En tant que capitale de l'Empire, Rome était un lieu où le pouvoir politique, les systèmes juridiques et une civilisation brillante étaient concentrés. Cela signifie que c'était un lieu qui se glorifiait le plus fortement de la capacité humaine et de la justice propre. Du point de vue de Paul, Rome était une ville où la justice humaine s'était accumulée si haut que la justice de Dieu pouvait facilement être obscurcie. C'est pourquoi Paul cherchait à renverser la justice humaine au cœur de Rome et à proclamer clairement la justice de Dieu qui est révélée uniquement à travers l'Évangile. De plus, à l'intérieur même de l'Église de Rome, il existait un danger de mélange de l'Évangile. Cela venait du fait que, dans une communauté où croyants juifs et païens étaient à mêler, il y avait une forte possibilité de conflit entre une foi qui mettait l'accent sur la loi et une foi qui comprenait mal la liberté. Au lieu de débattre de qui était le plus juste, Paul s'efforçait de prêcher la justice de Dieu à la place de la loi aux juifs et la justice de Dieu à la place de la philosophie aux païens en clarifiant ce qu'il faut croire pour le salut. Surtout, Paul lui-même était un témoin qui avait personnellement expérimenté la justice de Dieu. Il était quelqu'un qui avait essayé plus que quiconque d'établir la justice par la loi, mais il a douloureusement réalisé que ce chemin était vain. Il a confessé que sa propre justice ne venait pas de la loi, mais de la justice qui vient par la foi en Christ. Il voulait témoigner non pas d'une simple théorie, mais de cette justice qui donne la vie et qu'il avait réellement expérimentée. De plus, Paul a confessé « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants », Romains chapitre 1, verset 14, croyant que l'Évangile n'était pas la propriété exclusive d'un groupe particulier, mais une vérité universelle nécessaire pour toute l'humanité. En conclusion, la raison essentielle pour laquelle l'apôtre Paul se dirigeait vers Rome était de renverser la justice humaine là où elle était la plus répandue, et de proclamer la justice de Dieu donnée uniquement par la foi, invitant ainsi tous les hommes au même lieu de salut. Comment l'Évangile de l'eau et de l'Esprit nous révèle-t-il l'œuvre de Dieu à travers Jésus-Christ? L'Évangile de l'eau et de l'Esprit, dans lequel la justice de Dieu est révélée, n'est pas une doctrine abstraite, mais a manifesté sa réalité devant nous à travers des événements réels dans l'histoire. Dieu a clairement révélé sa justice, qui justifie les pécheurs à travers la venue de Jésus-Christ, son baptême, sa crucifixion, sa résurrection et le témoignage du Saint-Esprit. La justice de Dieu a été révélée avant tout, en premier lieu, par la venue de Jésus-Christ. Ce n'était pas simplement un concept caché dans le ciel, mais un événement que Dieu a fait révéler au monde dans la personne de Jésus-Christ. La loi ne fait que révéler le péché humain, elle ne pouvait pas accorder la justice. Cependant, Dieu a envoyé son Fils, qui est lui-même la justice, pour résoudre directement le problème du péché. Et cela est devenu le véritable point de départ de l'Évangile. De plus, cette justice de Dieu a été réellement accomplie à travers le moyen de l'eau. L'événement où Jésus a été baptisé par Jean n'est pas un simple symbole religieux, mais un événement central du salut. Par ce baptême, tous les péchés de l'humanité ont été transférés sur Jésus, ce qui signifie que le système de l'imposition des mains de l'Ancien Testament a été accompli comme une réalité. La justice de Dieu révélée dans ce processus ne s'est pas arrêtée à simplement couvrir le péché, mais a été une procédure juste consistant à imputer réellement le péché à Jésus pour le traiter et l'accomplissement complet du système sacrificiel de l'Ancien Testament. Jésus, qui a ainsi porté les péchés du monde par son baptême, a accompli la justice de Dieu en recevant sur la croix le juste jugement pour ses péchés. La justice de Dieu ne néglige jamais le péché. Et il a exécuté un jugement juste sur celui qui a porté nos péchés à notre place. Par cela, Dieu a parfaitement harmonisé sa sainteté, qui est le péché, avec son amour, qui sauve les pécheurs. La croix est le lieu même où cette justice de Dieu est manifestée de la manière la plus éclatante. Ensuite, la résurrection de Jésus est devenue l'événement par lequel Dieu lui-même a prouvé que le salut accompli par le baptême et la croix est complet et valable. Par la résurrection, il a été proclamé au monde entier que le prix du péché avait été entièrement payé et que la puissance de la mort avait été vaincue. Et il a été prouvé que la justice de Dieu avait été parfaitement accomplie. S'il n'y avait pas eu de résurrection, l'évangile serait resté une simple déclaration. Mais par la résurrection, l'évangile a été établi comme un fait historique incontestable. Cette justice de Dieu nous est aujourd'hui spécialement attestée par l'œuvre du Saint-Esprit. Elle ne reste pas un événement historique du passé, mais elle est confirmée dans le cœur des croyants par le témoignage de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous permet de croire que le baptême et la croix de Jésus sont le salut pour mon péché. Et il atteste que cette justice nous a déjà été donnée. Ainsi, l'évangile de l'eau et de l'Esprit est une histoire attestée par les yeux, une vérité acceptée par la foi et la réalité du salut scellée par l'Esprit. En conclusion, l'évangile de l'eau et de l'Esprit, dans lequel la justice de Dieu est révélée, commence avec la venue de Jésus-Christ et s'accomplit à travers une série de processus. Le transfert du péché par le baptême, l'exécution de la justice par la croix, la confirmation du salut par la résurrection et son application à nos vies par le témoignage du Saint-Esprit. Cet évangile n'est pas une justice conçue par l'homme, mais la justice parfaite que Dieu lui-même a accomplie et révélée. Comme Jésus l'a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 5, cet évangile est le seul et unique chemin parfait pour entrer dans le royaume de Dieu.